France Culture. Bonjour Patrick Baudry.
Bonjour.
Pour ce quatrième épisode autour de Discovery et puis ces 16 levées de soleil, on va revenir à la fois donc sur votre expérience de cosmonaute à la Cité des Étoiles qu'on a commencé à aborder hier et votre expérience américaine en 85 quand vous partez 7 jours dans l'espace. Et on a vu que vous avez mené depuis les 3 premiers épisodes votre carrière tambour battant, puisque entre 1967 et 69, vous avez fait l'école de l'air, vous étiez apprenti pilote. En 75, vous êtes commandant d'escadrille. Votre carrière de pilote de chasse, vous l'exercez en gros entre les années 70 et 80. À partir de 78, vous entrez aussi au centre d'essai et vous devenez pilote d'essai. Et toute votre vie d'ailleurs, vous ne cesserez d'être pilote. On verra aussi demain que vous allez piloter d'autres styles d'engins. On évoquera ça. Et à la fin des années 70, donc, commence la grande aventure spatiale. On a vu dans le premier épisode que vous n'appartenez pas à la génération qui, enfant, a rêvé des spationautes, astronautes, cosmonautes, hein, puisque il faut attendre justement les années 60. Mais entre-temps, est-ce qu'il y a une figure en particulier qui vous a inspiré pour sauter ce pas et se dire, allez, c'est la prochaine aventure à vivre?
Oh, il n'y a pas une figure en particulier, il y avait tous ceux qui avaient ouvert la voie de l'espace, Gagarine, John Glenn, enfin tous ces gens-là, quoi, les pionniers. Mais pas en particulier. Bon, j'ai beaucoup d'admiration pour Gagarine, comme beaucoup de gens. C'est pas très original. Mais non, simplement, moi, je rêvais d'aller là-haut et quand j'ai pu saisir une occasion, j'ai essayé de la saisir. C'est tout. C'est vraiment très simple, hein. Moi, j'ai toujours poursuivi un objectif. C'est de voler sur des machines de plus en plus performantes et de voler de plus en plus haut et de plus en plus librement. Donc, lorsque j'étais pilote d'essai, il y a eu cette opportunité, hein, cet appel à candidature du Centre national d'études spatiales pour recruter 2 citoyens français et partir en Union soviétique pour s'entraîner pour une mission avec les soviétiques. Donc j'ai posé ma candidature, et puis après le vol avec les soviétiques qu'a réalisé Jean-Loup, j'ai posé ma candidature pour un vol avec les Américains. Je suis parti là-bas à Houston m'entraîner. Donc c'est quelque chose d'assez simple, puisque ça s'est bien passé. Ça aurait pu s'arrêter à n'importe quel moment, bien sûr, parce qu'il y a des étapes, il y a des barrières à franchir.
Et d'ailleurs, enfin, vous évoquez dans vos mémoires le temps aussi qui peut être très long avant qu'on vole. Et aussi le rôle de la politique, parce que vous évoquez par exemple sur l'Union soviétique la mort de Brejnev, parce que peut-être que vous auriez pu voler en premier avec les Russes après le vol de Jean-Loup Chrétien.
Oui, tout à fait,
ouais. Et puis finalement, c'est pour le vol avec les États-Unis, c'est un accord entre la France et les États-Unis, parce que la navette a besoin de pouvoir faire des atterrissages d'urgence.
Ouais, enfin, c'est plus intéressant que ça quand même, parce que la navette avait pour objectif d'effectuer des missions également militaires, pour les militaires, pour le Pentagone. Et le Pentagone, donc, était partie prenante. Mais le Pentagone, lui, a compris très vite que la navette n'était pas une bonne solution.
Ouais.
Et il s'est retiré de la course, et après l'accident de Challenger, parce que ce qu'il faut bien dire, c'est que la navette était un véhicule spatial extrêmement dangereux. Donc la sécurité, certainement l'engin spatial le plus dangereux qui est volé jusqu'à présent. Alors les Américains le cachaient bien, hein, derrière une propagande de victoire, de beauté, des vols, etc. Mais ça, c'était la réalité.
Juste rappeler que elle décolle comme une fusée, ensuite dans l'espace, elle fonctionne comme un vaisseau spatial, et ensuite elle atterrit un peu comme un avion, si on résume
en schématisant. C'est l'image, c'est vrai. C'est le schéma d'un vol navette. Mais le Pentagone lui a réalisé que c'était pas une bonne solution. Et je reviens au vol franco-américain.
Oui.
Et l'accord qui était passé entre la France et les États-Unis, c'était simplement faire voler un citoyen français en échange de l'autorisation pour la navette de se poser à eau,
en
sauvetage. Et parce que pour les trajectoires nécessaires au vol militaire, il fallait pouvoir se poser dans l'océan Pacifique. Et donc AO était particulièrement propice pour ça. Une fois que le Pentagone s'est retiré, il n'y avait plus du tout de nécessité de pouvoir éventuellement se poser à AO. Donc c'était plus le sujet. Mais là, en 82, c'était le sujet. Et donc c'est l'échange qui a été fait. Ce qui m'a valu de pouvoir partir à Houston et de préparer ce vol avec les Américains. J'en ai préparé plusieurs, d'ailleurs, parce qu'il y avait tellement de problèmes sur la navette. C'était les premiers vols. Hein.
Oui.
La navette, elle a commencé à voler en 1981, le 12 avril. Un clin d'œil aux Soviétiques qui avaient envoyé le premier homme dans l'espace le 12 avril 61, c'est-à-dire 20 ans plus tôt. Et nous, on était à la Cité des Étoiles avec Jean-Loup à cette époque, et c'était assez marrant de voir que les Américains... Il y a toujours une agressivité des deux camps, d'ailleurs, hein, soviétiques comme américains, et faire voler pour la première fois leur navette un 12 avril, c'était vraiment quelque chose de très... Comment dire... Très agressif, quoi. On peut pas le dire autrement. Et nous, ça nous a beaucoup surpris.
C'est la guerre froide, hein. Il faut rappeler ce contexte. Hein.
C'était en plein
guerre. Confrontation États-Unis-URSS. Et puis on est sous Reagan. Donc
c'était Reagan en plus.
On était dans le contexte de guerre des étoiles. On appelait.
Il faut
remettre. Et puis que l'espace est dual. Il y a toujours, parce que vous évoquez la défense qui met son nez. Souvent les lanceurs
qui peut être utilisé à des fins militaires,
d'un côté
c'est vrai,
ou de l'autre.
Mais qui ne l'a pas été pour les vols habités. Il faut bien le dire aussi, parce que les gens imaginent toutes sortes de choses simplement parce que le vol habité c'est pas le meilleur moyen d'intégrer ça dans un dispositif militaire. Donc, nous voilà partis à Houston pour préparer un premier vol sur Challenger. Vol qui a été annulé parce qu'il y avait beaucoup de problèmes techniques, hein, je l'ai dit, sur la navette en général, Challenger en particulier. Navette, c'était un truc assez particulier parce que ça partait grâce à la poussée essentiellement de deux fusées à poudre. Une fusée à poudre, si vous voulez, c'est un pain de poudre avec un canal central, je schématise, hein. Vous allumez et ça donne de la poussée. On peut pas les arrêter, donc c'est assez particulier. Et c'est pour ça que c'est vraiment pas adapté à la sécurité qu'on attend d'un vol habité, quoi. Moi, je suis très admiratif des Américains qui ont réussi à poursuivre les vols de la navette. Malgré la perte de Challenger et de Columbia.
Challenger en 86, hein, donc, puis justement, c'est les étages à poudre, c'est au bout de 73 secondes que la navette a explosé en direct.
Voilà.
Et avec un émoi, on était tous devant les écrans parce que ça reste un événement.
Il y en a toujours.
Oui, parce que le premier accident aussi avant dans la mission Apollo, hein, qui a failli remettre en cause qui a secoué au niveau du programme quand les
En général, les accidents, ce type de technologie, sont toujours dus à une trop grande prise de risque. Pour Apollo 1, donc où les trois astronautes ont brûlé à l'intérieur de la capsule Apollo, c'était une trop grande prise de risque avec une atmosphère 100% d'oxygène, pour des raisons de réduction de masse, etc. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails techniques. Et pour Challenger, c'était la même chose, quoi. Les conditions météo n'étaient pas, disons, favorables, et ils ont quand même lancé, et voilà. Quant à Columbia, c'est aussi le principe même de la navette qui était mise en jeu, avec la protection thermique extrêmement fragile. Bon, donc, grosso modo, quand même, un véhicule spatial propulsé par deux fusées à poudre, c'est pas, sur le plan de la sécurité, le meilleur concept. Et donc, la navette aurait dû être arrêtée bien avant. Surtout que j'ai toujours pas compris à quoi elle servait. Alors, si on inverse le raisonnement, la station, l'ISS, la station internationale, n'existe que parce que les Américains ont dû démontrer que la navette servait à quelque chose. et pendant 30 ans, et on continue d'ailleurs. Alors aujourd'hui, c'est pas pareil. Ce sont des vols touristiques, et c'est vrai que l'ISS, c'est un bon endroit où aller, puisqu'elle est déjà là-haut.
Et puis bon, les scientifiques sont quand même toujours contents qu'on continue.
Les scientifiques, avancer, oui, ils sont dans leur labo. À partir du moment où on leur donne un budget pour faire leurs expériences, ils font des expériences, ils sont heureux.
Et puis la recherche repose aussi parfois sur des découvertes où, dans la théorie du labo, on ne sait pas toujours le débouché économique, industriel va trouver. C'est le principe de la recherche fondamentale, ça reste important. Et puis les Russes, ils ont quand même fait aussi, ils ont été les premiers à faire une station spatiale.
Oui, mais c'était une station, on ne peut pas comparer les stations Salyut et avec l'ISS. C'est quand même. Les Chinois aussi ont une station, on a toujours besoin d'une station pour aller faire quelques expériences. Mais en revanche, consacrer 15 milliards de dollars chaque année pour envoyer quelques scientifiques. Là, je doute. Si vous voulez, il faut quand même être raisonnable, quoi. Il faut faire la part de la propagande et la part de l'efficacité. En ce qui concerne l'ISS, il y a 95% de propagande et 5% d'efficacité. C'est tout. L'ISS, c'est une image, quoi. Après, ils se sont enferrés dans leur concept, mais c'est tout. On peut pas justifier des coûts de cette nature. 15, 20 milliards par an pour faire quoi? Vous me parlez des scientifiques, vous pouvez me citer un scientifique qui a découvert quelque chose de vraiment fondamental pour nous tous ou pour la science? Non.
Bon, parce que pour vous, c'est plutôt, ce que vous défendez, et ce serait plutôt d'aller mettre une base sur la Lune, voire sur la face cachée,
oui,
de pouvoir.
Ça, c'est un ouvrage que j'ai écrit dans les années 80 pour expliquer que sur la Lune, il y avait des choses fondamentales à faire, utiles. Pour la science d'une part, c'est-à-dire pour progresser dans nos connaissances, et pour notre vie à nous, êtres humains, sur la planète Terre. En s'installant sur la Lune, on peut poursuivre ces deux objectifs. Et à Isoku, vu ce qu'a coûté l'ISS, on pouvait largement aller s'installer sur la Lune. Le meilleur usage pour la science, c'est de découvrir quelque chose et d'avancer. C'est pas de tourner en rond autour de la Terre ou ailleurs. Tourner en rond, ça ne mène à rien.
Et je vous propose qu'on revienne quand même, parce que on était sur le vol sur Discovery. Et j'aimerais qu'on revienne là sur le départ et cette expérience quand même extraordinaire. Et donc, vous partez à bord de Discovery en juin 85. On est presque à fêter les 40 ans de ce vol. Et une fois de plus, vous allez franchir un interdit, entre guillemets. Mmh. C'est ça aussi que je trouve très intéressant dans votre parcours. Vous allez emmener avec vous un magnétophone, voilà. Mmh. Et quand vous publiez une première biographie, vous évoquez en ouverture votre passion pour la musique, pour la hi-fi, pour les appareils d'enregistrement, de son, enfin, etc. Et donc, vous emmenez ce magnétophone. Et aussi parce que vous voulez partager l'expérience de l'intérieur quasiment en direct. Enfin, donc, expliquez-nous un petit peu comment vous faites pour emmener ce magnétophone.
C'est un petit magnétophone, vous savez, les petits magnétophones Sony qui ont la taille d'un verre, si vous voulez. Bon. Donc, je l'ai caché dans ma combinaison. Les Américains n'en savaient rien, bien sûr. De toute façon, tout est interdit. Sortir du cadre, c'est toujours interdit. Donc j'avais amené ça pour enregistrer mes sensations, mes impressions, mes émotions pendant le tir. Parce que le tir, c'est très particulier. Hein, c'est 9 minutes de poussée, plus de 3000 tonnes de poussée en ce qui concerne la navette. Donc c'est la machine la plus puissante qui ait existé avec la fusée Saturne V pour les vols lunaires. Et donc c'est une expérience géniale, quoi, hein, poussée par cette machine. Et je voulais enregistrer mes impressions pour pouvoir les transmettre à tous ceux qui auraient aimé être à ma place. Mes camarades, mes copains à l'escadron, pilotes de chasse ou autres, tous les amoureux du vol ou de l'espace. Donc ce que j'ai fait, une fois qu'on était installé et que tout est verrouillé, boulonné, il n'y a plus de possibilité de l'extérieur d'intervenir à l'intérieur. Donc j'ai sorti le petit magnétophone, j'ai ouvert la visière de mon casque de scaphandre et j'ai enregistré mes impressions. Hein, c'est aussi bête que ça. Alors ça a étonné, mais mes camarades américains, bien sûr. Mais bon, ceci dit, c'est rien d'extraordinaire. Hein. Sinon qu'il y a une série d'indisciplines, emmener ça, ouvrir la visière de son scaphandre pendant les phases, justement, les plus dangereuses, etc. Bon, ceci étant...
Voilà, mais le risque était calculé, entre guillemets.
Par contre, c'est un bon souvenir.
Mais, et puis, du coup, c'est un joli document, alors que si les auditeurs veulent le retrouver, on mettra le lien, vous l'avez diffusé là récemment, en 2022, pour une conférence avec notre collègue Christophe Bourseiller, et donc avec les images. Et donc, c'est très intéressant parce que on a quand même cet engin très lourd, donc ce décollage, et on a ces 2 minutes parce qu'en plus le moment où les étages à poudre poussent, hein, c'est les boosters, il faut s'affranchir, s'arracher de la gravité, et donc c'est le moment souvent, enfin voilà, qui est critique. Et nous, on est vraiment à l'intérieur. Alors, vous décrivez cette poussée extraordinaire, on entend votre enthousiasme.
Moi, j'aime bien ce qui pousse, et là, j'étais servi, c'est super, quoi. Et puis ça se termine par une grande explosion. C'est ce qui permet d'éloigner les boosters à poudre qui ont terminé leur fonctionnement. Ça, c'est un grand manège, quoi. C'est l'aspect, je dirais, puéril d'un lancement. Hein. C'est comme ça. Et il faut vraiment aimer les choses qui poussent.
Et après, bien évidemment, alors ça on l'a évoqué dans le premier épisode, donc cette expérience extraordinaire de la pesanteur, enfin de cette liberté, de s'affranchir de son propre poids. Là, vous avez évoqué l'équipage, vous partez, on va en dire un mot de cet équipage.
Oui, parce qu'il faut travailler, il faut vivre ensemble dans un petit volume.
Pendant 7 jours.
Pendant 7 jours, ou pendant beaucoup plus, hein, parfois. Et donc, il faut s'entendre d'une manière parfaite, et c'est le cas évidemment, parce que quand vous avez travaillé pendant des mois et des mois, voire des années, avec votre équipage, vous êtes comme des frères et sœurs, vous connaissez très bien les uns les autres, vous savez très bien ce qu'ils ont à faire, donc dès que vous avez un peu de temps, vous allez les aider, et inversement, donc ça se passe très bien. Je crois que c'est l'équipage d'un vaisseau spatial, c'est l'exemple même du travail en équipe qu'on cherche à trouver dans une entreprise, entre les différentes équipes, justement. Et c'est jamais simple, mais pour un équipage spatial, c'est simple, parce que justement, il y a ce temps de l'entraînement qui lui est donné, qui lui permet de se connaître et d'avoir une adhésion totale.
D'ailleurs, à propos de l'entraînement, enfin côté russe, dans vos mémoires, vous racontez que l'entraînement physique et psychologique qui sont menés en bon équilibre avec l'entraînement technique et scientifique, et les équipages sont désignés en fonction des caractères humains de chacun cosmonaute. Alors là, c'était à propos des Russes, autant que de leurs compétences techniques.
Oui, il y a une attention qui est portée à l'aspect psychologique. Hein, c'est normal. Mais ceci étant, vous savez, la motivation pour partir est telle que les différences de caractère sont complètement estompées par justement la volonté d'atteindre le but. Hein. Donc, il est évident qu'à partir du moment où les Américains ont fait voler une femme, Sally Ride, et puis ensuite régulièrement une femme sur chaque équipage, voire plusieurs d'ailleurs, les Russes ont envoyé à nouveau une femme, juste avant les Américains évidemment, la deuxième, c'est de bonne guerre. Et moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir si les Chinois mettront le pied sur la Lune avant les Américains ou non. Et c'est un peu le même jeu qui se joue. Les Chinois ont bien avancé, les Américains font du surplace en tournant autour de la Terre. Et bon, avec Elon Musk, avec SpaceX, les choses techniquement ont fait un bond géant, mais néanmoins, l'histoire sera intéressante dans la prochaine décennie.
Oui, vous vous projetez toujours vers l'avant. Alors je reviens sur l'intérieur de la navette. Souvent, on vous pose la question qui pilote la navette. Alors il y a un commandant mais est-ce que vous avez approché aussi, vous avez pu tenir les manettes. Enfin, qu'est-ce que
bien sûr, à partir du moment où je suis pilote, c'est toujours intéressant de savoir comment ça se passe, quels sont. Bon, ceci dit, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous savez, quand vous êtes un vaisseau spatial, vous êtes sur une trajectoire et il faut rallumer les moteurs pour changer de trajectoire. Hein. Donc il n'y a pas grand-chose à faire. Alors en ce qui concerne l'atterrissage, c'est différent. Là, on a un simulateur où l'équipage s'entraîne, puisque tous les atterrissages de navettes ont été faits manuellement par le commandant de bord de chaque équipage. Et donc, il y a des séances d'entraînement avec le simulateur qui est un petit avion à réaction qui a exactement les mêmes réactions que la navette, hein, puisque c'est commande de vol électrique. Et donc là, j'ai pu faire quelques atterrissages, hein, mais c'est pas... Ce qui est intéressant dans un vol, quand vous volez sur un avion, c'est vraiment de pouvoir le piloter, bien sûr, c'est-à-dire, mais surtout de gérer tout ce qu'il concerne, je veux dire, tous les équipements, Et moi, ce que j'ai compris en volant avec les Américains, c'est que jamais un Français ne serait commandant de bord, c'est-à-dire n'aurait la responsabilité de la machine. C'est pour ça qu'après mon vol, je suis parti faire des choses utiles, c'est-à-dire aller essayer les avions et faire les Airbus que vous connaissez aujourd'hui.
Vous évoquez aussi, c'est ce que c'est un métier quand même assez cruel, cet astronaute, ce cosmonaute, russe, qui lui a attendu 16 ans pour finalement se faire recaler à sa dernière visite médicale au moment de voler. Donc,
c'est pour ça que j'ai appris.
Et puis vous-même, vous avez dû gérer l'attente.
C'est un métier, et j'ai vraiment appris chez les Russes ce qu'est l'humilité, quoi. C'est-à-dire se dévouer pour une cause à laquelle on croit, c'est-à-dire le vol spatial, hein, en ce qui concernait les Russes, et les Américains aussi d'ailleurs, mais savoir accepter que si un événement fait qu'on ne peut pas voler, on ne vole pas. Et la cause est plus grande que votre avenir à vous personnellement, bien sûr. Et c'est quelque chose que j'ai appris chez eux, chez les uns, chez les autres. Et c'est quelque chose d'important. Hein. Quand vous travaillez dans une équipe avec un objectif, ce qui est important, c'est l'objectif. C'est pas le destin et l'avenir de chaque élément de cette équipe. Qu'elle soit constituée de 10 personnes ou de milliers de personnes. La conquête spatiale, ça concerne des centaines de milliers de personnes. Hein. Et donc, vous êtes un élément parmi tout ce... Et j'ai appris ça chez les Soviétiques. Quand Vladimir a perdu son aptitude sur une visite médicale, après 16 ans d'entraînement, et vu la manière dont il a réagi, j'ai trouvé ça superbe, quoi.
Quand vous êtes à la cité des étoiles, justement, vous dites que vous aviez une vie monastique et que justement là, vous avez trouvé une famille, voilà, tendue, enfin ouais. dans cette communion de la conquête spatiale. Et en plus, là, vous arrivez dans un centre, c'était quand même exceptionnel parce que vous êtes, on est en pleine guerre froide, hein, rappelons-le, vous arrivez dans un régime autoritaire. C'est un centre très, qui était secret, et donc là, vous le décrivez, donc techniquement, c'est un centre très élaboré et le plus performant dans le monde en ce qui concerne la vie dans l'espace, et que les Russes ont accumulé une expérience extraordinaire des vols spatiaux de longue durée, jusqu'à plus d'un an, et c'est vraiment un moment, c'est une matrice pour vous parce que ça va aussi vous inspirer plus tard pour le Space Camp, parce que quand vous évoquez... Bien sûr, oui. Alors, le Space Camp, rappelons-le, à partir de 89, dans la région cannoise, vous avez envie de faire découvrir aux adolescents, aux enfants, ce que c'est que de se préparer un vol dans l'espace. Mmh. Et votre modèle, ça va être la cité des étoiles. Même si le Space Camp fait référence à votre expérience américaine, c'est la cité des étoiles.
Oui, parce que le but du Space Camp, c'était de donner aux enfants qui faisaient un stage la connaissance de ce qu'ils avaient en eux-mêmes et de leur objectif. Comme je l'ai dit, ce qui est important dans la vie, c'est d'avoir un objectif, un rêve, un idéal. Et à partir du moment là, tout devient facile. Donc le but du Space Camp, c'était ça. Ça a très bien marché. Moi, je rencontre de ci, de là, des anciens stagiaires spatiens du Space Camp. Et chaque fois, je vois que ça marchait formidablement bien. Le but, c'est de me servir d'un certain nombre d'éléments que j'ai trouvé à la Cité des Étoiles pour leur donner ce contexte et cette cohésion entre eux et cette possibilité de rêver plus loin. Mais j'utilisais, il y avait une centrifugeuse, il y avait des tas d'éléments qui étaient la Cité d'Étoiles, mais qui étaient un peu accessoires, mais en même temps qui leur permettaient de vivre quelque chose qu'ils ne pouvaient pas vivre ailleurs, quoi, d'avoir des sensations qu'on ne trouve pas dans la vie quotidienne.
Est-ce qu'en plus ils sont connectés ? Enfin, il y a un reportage de France 3 au début des années 90, mmh. Enfin, on mettra le lien, et les enfants, ça fonctionne comme vous, il y a une table de commande, quelqu'un qui suit l'expérience, mmh. et on renseigne des sensations, parce que physiquement, il se passe, le corps est secoué, enfin, mmh. et donc du coup, ils peuvent expérimenter, ou là, contrairement à Manet, on va pas dire en direct ce qu'on vit. Là, ils sont connectés comme les astronautes avec le centre de commande.
Ça les met en situation et ça leur permet de voir qu'ils peuvent faire des choses peut-être qu'ils n'imaginaient pas avant.
Et vous arriviez aussi à faire des équipes, à créer cette petite famille.
Oui. Parce que également, il y avait un travail en équipage. Et donc, ça crée cette cohésion, et c'est important. Vous savez, la discipline, la cohésion et l'esprit d'équipe, c'est fondamental pour réussir quelque chose. Parce que, à part les expériences personnelles, mais qui font pas avancer l'humanité, tous les grands projets ont été réalisés par des équipes multidisciplinaires et très nombreuses. Hein, je vois dans l'aéronautique, il n'y a pas un prototype qui soit sorti sans le travail avant de centaines, voire de milliers de personnes. Et donc, pour fonctionner de cette manière, il faut avoir un sens de l'intérêt commun, bien sûr, et en même temps avoir une grande discipline, mais pas aveugle. Hein, parce que parfois, une discipline aveugle va à l'inverse de l'efficacité. Et il faut savoir juger justement quand, en respectant les autres et la cohésion de l'équipe et la sécurité globale, quand on peut faire un pas qui n'était pas prévu de cette manière. C'est important aussi de garder son discernement et son étincelle, mais dans un projet qui implique une discipline absolue collective.
Justement, demain, nous terminerons notre cinquième entretien sur le thème « Savoir se donner des ailes ». Et on verra justement comment vous avez toujours soigné cet esprit d'équipe et de recherche avec d'autres projets d'avions, de moyens volants, et aussi le travail de transmission des savoirs aussi que vous avez pu faire et auxquels vous êtes attaché. Merci Patrick Baudry.
Merci.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, réalisation Guillaume Baldi, documentaliste Anne-Lise Signoret et Christine Anzano, une série de Meryl Moneghetti, disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.